sur Europe 1.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1 comme tous les jours. Je suis ravi de vous retrouver pendant 7 heures et en direct et à mes côtés jusqu'à 16 heures pour ce 225e rendez-vous, ma chère Ambline.
Oui. Comment avec allez-vous? Plaisir, ça va bien, bonjour à tous.
Pendant 7 heures, nous parlons de vos expériences de vie, de votre parcours, car votre vécu nous intéresse, comme vous le savez. En fin d'année dernière, nous avions écouté le témoignage de plusieurs femmes devenues mères alors qu'elles étaient encore adolescentes. Aujourd'hui, certaines d'entre elles ont accepté de nous parler à nouveau, de partager leurs impressions et les évolutions de leur quotidien depuis cette émission de fin d'année. Ces jeunes mères et ces jeunes pères, à peine sortis de l'enfance, voient leur quotidien bouleversé à la naissance d'un enfant et vivent cette arrivée dans le monde des adultes sans transition. C'est la fin de l'insouciance et l'obligation d'être responsable qui s'accompagne souvent d'un sentiment de solitude et de décalage avec les jeunes de leur âge. Comment Manon, par exemple, que nous avions eu en novembre, grandit-elle maintenant, en même temps que sa petite fille? À quoi ressemble son quotidien? Eh bien, nous allons en parler dans quelques instants. Parents ados, que sont-ils devenus? C'est notre sujet d'aujourd'hui sur Europe 1. Nous attendons vos témoignages, nous attendons vos histoires, car nous sommes là pour vous écouter.
Oui, vous n'hésitez pas aujourd'hui, bien sûr, à composer le 39-21, 50 centimes la minute. Vous êtes parents ados, vous êtes parents d'un parent ado, n'hésitez pas. Et puis, vous pouvez nous écrire Twitter, hashtag Europe 1, ou via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1.
15h, 16h, partageons nos expériences de vie avec Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et nous accueillons Manon sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Manon.
Bonjour.
Soyez la bienvenue. Comment allez-vous?
Ça va, merci vous.
Très bien, ça va, merci beaucoup. Alors, vous avez 16 ans Manon. Au mois de novembre dernier, vous nous aviez raconté votre nouveau quotidien de mère. D'abord, comment se porte votre petite fille là?
Très bien, ouais. Très très bien.
Et votre quotidien alors, comment ça va? Vous vous faites ce quotidien de maman?
Ah bah oui, tout à fait, oui. Elle va avoir un an déjà le mois prochain, on a le temps de bien prendre notre...
La vitesse de croisière.
Etc. Ouais. Donc, ouais.
Alors vous avez repris les cours depuis la naissance de votre fille. Vous ne les avez pas repris?
Non, pas encore.
Alors vous allez les reprendre comment?
Là, j'attends parce que je suis en train de la sevrer avec l'allaitement.
D'accord.
Donc, et je pense reprendre des cours par correspondance pour pouvoir rester à la maison avec elle et passer un diplôme.
D'accord. Alors, dans quelle branche vous voulez vous diriger?
Je voudrais faire un CAP petite enfance et un concours APSEM par la suite.
D'accord. Et qui vous mènerait donc vers quoi, par exemple?
Dans une école maternelle.
École maternelle, crèche, je suppose, enfin en tout cas un contact avec les enfants.
Oui.
Vous arrivez à vous organiser pour avoir une vie de jeune fille quand même de votre âge? Est-ce qu'il vous arrive quand même de sortir avec des amis ou voilà, ça a créé un décalage avec les gens de votre âge?
Ça dépend parce que vraiment, quand je veux sortir, c'est sûr que c'est pas pareil parce que avec Louise, il faut sortir avec tout ce qu'il faut pour elle, donc à manger, couche, enfin tout le nécessaire. Oui. Mais bon, c'est pas impossible, c'est sûr. Il faut s'organiser, mais c'est pas impossible. Après, ça dépend de ce que vous disiez. Ce que vous dites, pardon, c'est comme le cinéma, etc. Ça, c'est pas possible. Oui. Ou éventuellement, c'est la faire garder, mais c'est pas ce que j'ai envie non plus. Donc, non.
Alors, je sais que vous allez bientôt déménager avec votre conjoint. 16 ans, vous êtes maman, vous allez déménager. Vous avez l'impression d'être une adulte, Manon, aujourd'hui?
Oui.
Ouais. Oui. Qu'est-ce qui vous fait prendre conscience de ça? Est-ce que c'est vos copines, vos copains, qui ont le même âge que vous et qui n'ont pas cette responsabilité, qui vous montrent le décalage qu'il peut y avoir et justement cette responsabilité que vous avez aujourd'hui en tant que mère?
C'est plein de choses, en fait.
Alors quoi,
c'est
dites-moi.
Sûr que, d'abord, depuis que j'ai eu Louise, forcément, c'est de grosses responsabilités. Enfin, il y a beaucoup de choses dans le rôle de maman, mais aussi quand je vois les personnes avec qui j'étais amie avant, au collège, au lycée, je me dis que j'ai gagné beaucoup en maturité comparé aux autres... jeune fille de mon âge, quoi.
Et avec vos parents, comment ça se passe, en fait? Est-ce qu'ils ont un rôle prédominant dans la naissance de votre fille et dans votre accompagnement aujourd'hui?
Non, pas du tout. Parce
pas du
que
tout, d'accord.
J'ai mis les barres sur l'été directement parce que beaucoup de personnes voulaient, comment pourrais-je dire, faire les choix à notre place, en fait.
Ouais.
Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas plu du tout. Donc, du coup, il y a vraiment personne qui décide quoi que ce soit et c'est vraiment nous. Et quand il y a quelque chose qui ne va pas, vraiment, on recale, quoi.
Parce ouais. que... Mais on peut entendre aussi et comprendre que vos parents peuvent avoir eu un peu peur, hein, puisque les parents, ils sont aussi impressionnés peut-être par l'arrivée d'un enfant. Donc, du coup, est-ce que vous avez senti que c'était ça? C'est que, quelque part, ils décidaient à votre place par manque de confiance aussi, hein, parce qu'ils se disent, voilà, ma fille, elle est jeune pour avoir un enfant, elle ne va pas y arriver. Est-ce que c'était ça aussi, quelque part
Non. Pas par manque de confiance, c'est plutôt parce que les gens ne savent pas se taire, en fait. Et toujours quelqu'un qui a besoin de donner son avis sur
ouais,
tout.
Ouais. Bon, et visiblement, vous avez votre avis qui est bien tranché, hein, Manon. C'était important pour vous de partager votre histoire avec nos auditeurs en novembre. Aujourd'hui aussi, vous avez la gentillesse de prendre de votre temps pour nous parler de votre vie. Quels sont vos projets pour l'avenir maintenant, pour vous, votre conjoint et pour Louise?
Déjà, ce serait vraiment bien de se mettre en ménage parce que c'est bien aussi d'habiter avec maman. Mais bon, maintenant, on est bien dans notre rôle de parents et Louise a grandi aussi un petit peu. Donc, on voudrait prendre notre logement maintenant qu'elle est grande. Après, moi, travailler, bien sûr, passer le permis. Mm-hmm.
Quel âge a votre conjoint, rappelez-moi?
23.
D'accord, bon, très bien. Donc ça fait une moyenne entre vous, 16 ans, et lui, 23. Du coup, écoutez, je vous souhaite plein de bonheur à vous, votre conjoint, et puis pour la petite Louise. Et puis nous ne serons pas sans nous reparler et nous prendrons des nouvelles de vous régulièrement, Manon. Au revoir, bonne journée.
D'accord, merci beaucoup, au revoir.
Au revoir. Merci beaucoup pour ces nouvelles. Dans un instant, nous retrouverons Marie-Christine, que nous avions eue en fin d'année aussi, et qui nous avait raconté l'histoire d'une grossesse vécue à 18 ans. Pas toujours facile, on va le voir.
Europe 1.
Avoir 15, 16, 17 ans et être déjà parent. Quel est votre parcours? C'est l'histoire de votre propre enfant. Appelez-nous le 3921.
Olivier Delacroix sur Europe 1.
Vous êtes avec Olivier Delacroix et vous composez jusqu'à 16h, le 39-21. Vous êtes le parent d'un adolescent qui a eu un bébé, une fille mère. Vous témoignez au Standard d'Europe 1. Comment assumer un bébé quand on est à peine sorti de l'enfance?
Et nous avons eu Manon qui nous racontait que elle avait eu la petite Louise à l'âge de 15 ans. Et puis, ça me semblait assez sur les rails, cette histoire, puisque Manon s'apprête à emménager avec son conjoint et Louise dans un appartement. Et puis, on a senti quand même une jeune fille qui avait un caractère bien trempé et qui avait déjà un plan de vie assez précis. Donc, on voit qu'on peut avoir un enfant à cet âge-là. Et elle a souligné d'ailleurs la grande maturité qu'elle avait acquise depuis la naissance de Louise. Nous accueillons maintenant Marie-Christine sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Marie-Christine.
Bonjour Olivier.
Bonjour, comment allez-vous?
Je vais très bien, je vous remercie.
Bon, alors on avait parlé tous les deux en fin d'année de votre histoire. Vous nous aviez raconté que dans les années 70, alors que vous aviez 18 ans, vous étiez tombée enceinte. Pouvez-vous nous rappeler les circonstances de cette grossesse, Marie-Christine?
J'étais en, on ne parlait pas à cette époque-là d'être en couple, mais disons que j'avais un petit ami.
Oui.
Et puis, bien sûr, il y a eu des rapports non protégés. Et puis, un bébé a été conçu.
D'accord. Alors, à l'époque, les jeunes filles, dans les années 70, les jeunes filles enceintes, c'était assez mal vu. Pensez-vous qu'aujourd'hui, le jugement porté sur ces adolescentes, dont vous faites partie, devenues mères, est toujours aussi difficile ou le regard a changé?
Non, moi en étant beaucoup plus âgée maintenant, je pense que le regard a énormément changé, la société a évolué et c'est quand même très bien, quoi.
D'accord, alors aujourd'hui, vous, cette société, elle est plus flexible en fait envers ces jeunes filles. C'est vrai qu'on avait cette notion de fille-mère à l'époque. Et j'ai souvenir, lors d'un tournage à Lyon, de l'endroit où on accueillait ces filles-mères. Elles étaient cachées en ville, dans des foyers. Souvent, elles quittaient le foyer familial. Vous aviez connu ça à l'époque ou vous étiez restée chez vos parents?
Non, j'étais, comment dire, j'étais chez mes parents. Mes parents ne m'avaient pas, comme on dit à l'époque, jeté dehors, quoi.
Oui, oui.
Mais j'ai vécu une grossesse cachée, oui, tout en étant chez mes parents.
Alors, justement, cette grossesse, elle aboutit à la naissance de votre enfant. Et 3 jours après cette naissance, votre enfant est confié à l'adoption sans que vous n'ayez signé le moindre papier. Des années plus tard, vous avez appris que le gynécologue qui vous suivait s'était arrangé à plusieurs reprises pour que les bébés des filles mères, comme vous, soient confiés à l'adoption. Avec du recul, quel regard vous portez sur cette pratique qui est, somme toute, assez révoltante ?
Mais si je peux employer des mots très méchants, je trouve que c'est très très comment dire, très très inhumain.
Oui.
Et puis c'était il y a eu quand même pas mal de scandales qui ont été faits.
Marie-Christine, au début de la conversation, vous étiez dans un endroit qui captait très bien. Essayez de ne bougez pas en fait.
Là, je n'ai pas bougé.
Ah d'accord, là je vous entends très bien. Super. Et
voilà.
Après cette grossesse vécue à l'âge de 18 ans, vous avez eu d'autres enfants?
Oui, j'ai 2 autres enfants.
Comment auriez-vous réagi si l'un d'eux était devenu parent à l'adolescence? Parce que je suppose que ça vous a forgé, cette histoire.
Bien sûr, mais moi, en étant, justement en ayant vécu cette triste expérience, mes enfants, aussi bien mon garçon que ma fille, ont toujours su que je serais présente et que je serais là pour les aider au cas où.
Que diriez-vous aux jeunes filles qui sont aujourd'hui dans cette situation et à qui l'on dit à l'avance qu'elles n'arriveront pas à s'occuper de leur enfant ?
Non, c'est pas vrai, parce que je pense qu'à l'heure actuelle, il y a quand même beaucoup il y a beaucoup de moyens, il y a beaucoup de services sociaux, il y a des personnes qui sont là pour les aider, les conseiller, et je pense qu'une jeune fille à l'heure actuelle qui tombe enceinte a toutes les possibilités d'élever un enfant seul et de très bien s'en occuper.
Parlez-moi des retours que vous avez eus après nous avoir partagé votre histoire sur l'antenne d'Europe 1. Quels ont été les retours de votre entourage ?
J'ai quelques collègues qui m'ont entendu et qui m'ont dit que j'étais quelqu'un qui avait une très bonne réaction, quoi. Que,
ouais.
Voilà.
Vous avez du courage.
Du courage, oui. Puis je pense que je n'ai pas dans mon entourage de jeunes filles qui ont vécu cette situation.
Mm-hmm. Je vous entends très mal, Marie-Christine.
Vous m'entendez
ouais,
mieux.
Là, je vous entends mieux, ouais.
Comment... Donc je disais que ouais. Je suis là pour les aider si éventuellement ils ont besoin.
Alors, comme vous nous l'aviez raconté, vous avez retrouvé votre fils. Qu'on vous avait enlevé, donc 3 jours après sa naissance. Vous avez espoir de retisser des liens forts avec lui ?
Je le souhaite, mais je l'espère, oui. Mais il n'y a que lui qui a la décision maintenant.
Où est-il, ce fils ? Il est à Perpignan. Et comment vous l'avez retrouvé, en fait ?
Grâce à l'émission que j'ai faite avec Sophie Davant.
Oui.
J'ai participé au forum à la fin de l'émission et
oui.
Par le biais du forum, j'ai des personnes qui m'ont contacté.
D'accord.
Et c'est par le biais de diverses associations sur Facebook que j'ai pu retrouver mon fils.
Parce qu'on est d'accord qu'on vous l'avait enlevé 3 jours après sa naissance et qu'on avait brouillé les pistes pour que vous
tout
ne le
fait.
Retrouviez pas. Ouais.
Tout à fait, tout à fait.
Vous pensez que ce même type de pratique aujourd'hui existe encore ?
J'espère que non.
Ouais. Non, vous espérez
certainement, hein, ça aussi, ça doit certainement exister, mais j'espère que non quand même, quoi.
Bon, en tout cas, Marie-Christine, merci beaucoup pour ce complément de témoignage cet après-midi sur l'antenne d'Europe 1. Bien évidemment, on embrasse tous vos enfants, hein, celui de Perpignan, s'il nous écoute, qu'il sache qu'il a une mère courageuse qui ne tient qu'à une chose, c'est de retisser des liens forts avec son fils et qu'une maman, hein, ça reste une maman, quoi qu'on en dise, à vie. Dans un instant, nous allons accueillir Nicolas Dutriot. Il est sage-femme et secrétaire général du Collège national des sages-femmes.
Europe 1. Des adolescents qui deviennent parents, c'est votre histoire, c'est celle de votre enfant. Vous nous racontez votre parcours au 39-21. Vous nous écrivez via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. Twitter aussi avec le hashtag Europe 1. Ils ont passé le brevet des collèges, le bac, et ils sont déjà parents. C'est votre histoire, c'est celle de votre enfant, le 3921, pour nous appeler, vous raconter votre expérience de vie à Olivier Delacroix.
Et nous sommes maintenant en ligne avec Nicolas Dutrio, sage-femme et secrétaire général du Collège national des sages-femmes. Bonjour monsieur.
Bonjour. Merci. Et ancien secrétaire, du coup, j'ai rendu mon mandat au mois de février, je suis toujours membre évidemment du Collège des sages-femmes.
D'accord. Bon, bah, en tout cas, ils ont remplacé le secrétaire, visiblement.
C'est ça.
Mais vous êtes toujours membre donc du Collège national des sages-femmes.
Libéral.
Très bien. Alors, Nicolas Dutrio, depuis plusieurs décennies, le nombre de grossesses précoces enregistrées en France est en baisse. Qu'en est-il de la perception des jeunes filles qui tombent enceintes ? Sont-elles mal vues, comme c'était le cas à l'époque de Marie-Christine, que nous venons d'avoir ?
Alors, ça dépend si on se place du point de vue des professionnels ou du grand public. Dans le point de vue des professionnels, heureusement, effectivement, des histoires comme Marie-Christine, on ose espérer que ça n'existe plus et ça serait un scandale si jamais on se rendait compte que ça existait encore, et tant mieux. Mais voilà, ça fait un peu partie des côtés des violences gynécologiques obstétricales qui ont aussi été dénoncées il y a deux ans environ. Voilà, et je pense que c'est une forme de violence également qu'on faisait à ces jeunes filles et à ces enfants. Heureusement, les choses ont beaucoup évolué, que les foyers mères-enfants maintenant font tout pour que les jeunes filles gardent leur enfant justement, et s'ils existent, et justement pour leur offrir une stabilité, une adresse également quand ils sont en rupture familiale, pour pouvoir reprendre leurs études ou trouver un emploi le plus rapidement possible à la suite de la naissance.
Oui.
Du point de vue du grand public, c'est pas forcément aussi simple et... Mais quel que soit l'âge, on entend ne serait-ce que voilà les critiques sur l'interruption volontaire de grossesse. Comment peut-on encore être enceinte avec toute l'information qui existe ? Ben, un tiers des grossesses est non programmée dans notre pays, donc 90% sous contraception. Donc c'est pas un manque forcément d'information, c'est plus un manque d'adaptation de la contraception au rythme de vie des femmes, et notamment les jeunes filles et leur scolarité à l'heure actuelle.
Quelles sont les réalités sociales des personnes que vous recevez, voilà ces jeunes filles qui tombent enceintes ?
Donc, le point de départ, c'est toute classe socio-professionnelle, tout milieu économique. Hein.
Oui.
Effectivement, plus on est dans un niveau économique élevé, plus on aura le réflexe déjà éventuellement de recourir à une contraception d'urgence en cas d'accident, parce qu'on aura eu une information qui sera plus accessible. Ensuite, il y aura plus facilement aussi l'accès à l'interruption volontaire de grossesse et les jeunes filles qui vont poursuivre la grossesse, pour un certain nombre d'entre elles, soit par cause ou conséquence de la grossesse, vont se retrouver en rupture familiale
oui.
et se retrouver dans des grandes précarités, et ça va être un moyen finalement pour elles d'avoir un statut social au sein de notre société que ni l'école ni éventuellement le marché du travail ne semblent pouvoir leur offrir dans un avenir proche.
Qui sont les différents référents médicaux à qui ces jeunes femmes peuvent s'adresser ou pour s'informer lorsqu'elles tombent enceintes ?
Bah, du coup, évidemment, en premier lieu, le médecin généraliste hein, qui est quand même le premier recours
oui,
et
oui.
la personne référente, a priori, d'un suivi, quel que soit notre âge. Mais également, les gynécologues médicaux et obstétriciens, et sans oublier, du coup, nous, les sages-femmes, évidemment, de par également toute notre compétence en termes d'accompagnement et tout le tissu social et médico-social et psychologique qu'on peut avoir au sein des réseaux périnataux. Et voilà, donc, soit la jeune fille vient nous voir, nous, directement, et on est à la fois du côté suivi médical pur et dur et à la fois côté accompagnement.
Oui.
Soit c'est le médecin généraliste, soit un gynécologue qui suit la grossesse. Et dans ce cas-là, on aura notre place dans la préparation à la naissance comme n'importe quelle autre maman, mais également du coup tout le tissu social et psychologique nécessaire pour que ces jeunes filles puissent évidemment garder leur bébé au maximum après la naissance et éviter également éventuellement une déscolarisation et travailler du coup avec les secteurs éducatifs.
Alors, quelles sont les différences majeures de suivi lorsqu'il s'agit justement d'une jeune femme encore adolescente enceinte ?
L'un des premiers points, c'est déjà d'avoir un suivi. Hein. Moi, une des dernières jeunes filles, comme je disais à vos assistantes, que j'ai eues, elle est arrivée à mon cabinet un lundi soir à 21h à 5 mois de grossesse. Donc, et souvent, pas forcément, soit parce qu'elle n'a pas pris contact, soit là, en l'occurrence, elle pensait ne pas avoir... une CMU activée et que du coup elle pensait ne pas avoir les moyens de faire suivre sa grossesse alors que on est professionnel de santé et le paiement on verra plus tard hein. L'urgence
oui,
c'est de gérer cette jeune fille et de lui offrir le meilleur suivi qui soit pour elle et son bébé et puis au pire, on n'aurait pas été payé, c'est pas grave.
Mmh.
Voilà. Et du coup, c'est du coup le retard à la prise en charge et au début du suivi de grossesse, avec éventuellement une partie des dépistages qui seront au premier trimestre quand on arrive en début de deuxième. Voilà, on a moins de possibilités de leur proposer tout ce qui est proposé à une maman lambda. Et puis après, il y a plus de risques de menaces d'accouchement prématuré ou de petits poids de naissance, mais pas forcément liés à leur jeune âge, mais plutôt à toute leur situation de précarité. Quand on est en rupture familiale et qu'on mange pas à sa faim matin, midi et soir, on fait des bébés plus petits, quel que soit son âge.
En tout cas, on entend que votre approche, la vôtre, hein, est celle d'un...
Moi, j'ose espérer que c'est celle de n'importe quel professionnel de santé,
j'ose espérer,
une éthique médicale.
J'ose espérer aussi. Et voilà, on espère ensemble à ce moment-là. Ouais. Votre approche est différente, on l'entend. En tout cas, vous mettez en place des choses particulières avec ces jeunes femmes. Mais quelles sont les principales attentes de ces jeunes femmes, les principales angoisses lorsqu'elles s'apprêtent à devenir mères?
Bah déjà, c'est est-ce qu'elles vont en être capables? Donc, c'est aussi tout le côté réassurance, mais ça, c'est un peu aussi tout le côté, finalement, de n'importe quelle femme qui va devenir mère.
Oui. Enfin,
c'est pas forcément une question d'âge. Donc, on va retomber sur beaucoup les mêmes problématiques avec les mêmes besoins en préparation à la naissance. Après, ça sera plus de où est-ce qu'on va vivre? Est-ce que ça sera avec le papa du bébé ou pas, en fonction de s'il veut s'investir ou pas dans la grossesse? Est-ce que ça va être chez l'un des deux parents, du coup, du monsieur ou de la jeune fille? Et en fonction aussi de comment les grands-parents acceptent du coup le fait que leur fille soit enceinte ou que leur fille va devenir père, etc. Donc c'est aussi on a aussi tout notre rôle à la fois d'intégrer la famille tout en étant garant que chaque décision qui est prise de par le besoin des autorisations parentales, notamment en hospitalisation, soit bien du coup une autorisation conforme aux souhaits de la jeune fille et pas contraire à ses vœux. Donc, on est toujours un peu dans la jeune fille choisie, mais avec les contraintes légales éventuellement des autorisations parentales, sachant que c'est plus de l'administratif qu'autre chose, puisque la loi sécurise, et notamment ça a été renforcé en 2016, la santé sexuelle des mineurs n'a pas besoin d'autorisation parentale à n'importe quel moment, que ce soit pour la grossesse, pour le suivi gynécologique, pour la contraception, pour le dépistage et le traitement d'une infection sexuellement transmissible. La santé sexuelle d'un mineur est soumise à son seul consentement et pas à celui de ses parents.
Et c'est plutôt une bonne chose pour vous, Nicolas Dutriot, ça. On entendait Manon dans la première partie de cette émission évoquer justement des parents qui prenaient des décisions un peu à la va-vite et surtout à la place de leur fille. Est-ce que vous, qu'en pensez-vous de cette mesure-là?
Bah, c'est bien parce que le jour, ça m'est arrivé, pareil, il y a quelques mois, fin 2018, d'avoir une maman qui avait pris rendez-vous pour sa fille pour une demande d'interruption volontaire de... Et quand la jeune fille est arrivée dans mon bureau avec sa maman, la maman a confirmé que sa jeune fille demandait une interruption volontaire de grossesse et la jeune fille me disait non de la tête.
Donc,
on a remis les choses au point que ça sera que maman ne le veuille ou pas, elle allait devenir grand-mère.
Ah, d'accord. Nicolas Dutriot, vous restez avec nous, vous allez continuer à nous accompagner tout le long de cette émission. Je rappelle que vous êtes sage-femme et ex-secrétaire général du Collège National des Sages-Femmes, mais toujours membre, donc c'est ça qui est important. Vous restez en ligne avec nous dans quelques instants, nous accueillerons Denis, et on va voir justement, sa fille est devenue mère alors qu'elle n'avait que 15 ans, et on va voir comment il a réagi et comment il a vécu cet événement.
Et le témoignage de Marie, 47 ans, au 39-21, je suis devenue maman à 17 ans et demi, je n'avais pas ma famille avec moi car j'étais au Portugal, ma famille en France. Mon mari avait 7 ans de plus que moi, cela fait 29 ans qu'on est ensemble aujourd'hui, je suis heureuse, il
Magnifique.
Faut assumer. Quand ça nous arrive.
Europe 1.
Voilà, accident ou bébé voulu. Des adolescents à peine sortis de l'enfance et déjà parents, vous nous racontez sur Europe 1 au 39-21 pour nous écrire Twitter, hashtag Europe 1.
Et nous sommes en ligne maintenant avec Denis. Soyez le bienvenu sur l'antenne d'Europe 1. Denis, bonjour.
Oui, bonjour Olivier.
Bonjour, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous, Denis?
Donc je vous appelle de Lyon.
Oui.
Et j'ai donc 59 ans.
D'accord. Alors, Denis, il y a plusieurs années, votre fille est tombée enceinte alors qu'elle n'avait que 15 ans. Vous dites qu'elle a fait un déni de grossesse partielle. Expliquez-moi ce que c'est, ce qui s'est passé exactement.
Oui. Donc, si vous voulez, en fait, elle nous a annoncé qu'elle était enceinte comme ça, du jour au lendemain.
Oui.
Alors qu'il n'y avait aucun signe visible de sa grossesse.
Mm-hmm.
Et en fait, quand elle nous l'a annoncé, elle était déjà enceinte de 6 mois.
D'accord. Cela veut dire elle savait qu'elle était enceinte.
Bah donc, elle se l'est quand même, on va dire, masquée pendant un certain temps.
Oui.
Jusqu'au moment où ça commençait quand même à bouger. Donc, elle n'avait plus les moyens de faire un déni, quoi.
Mm-hmm. Et est-ce qu'à votre avis, ce déni de grossesse, il était en partie à cause de la peur oui. de votre jugement, en tout cas voilà, du choc que vous pouviez éventuellement subir.
Oui, oui, tout à fait. Ouais. Elle nous l'a expliqué clairement, donc elle avait peur pour elle-même, on va dire, bien sûr. Et elle avait peur de nous l'avouer. Ça, je pense que c'était les éléments qui ont déclenché en fait, son déni partiel. Enfin,
alors, Denis, ouais. quelle a été votre réaction lorsque votre fille vous a annoncé sa grossesse?
Je m'en souviens un petit peu comme si c'était hier. Ouais. En fait, avec ma femme, on revenait du marché. Et donc, ma fille dit à sa mère, « Maman, j'ai quelque chose à t'annoncer. » Et on va dire l'intuition féminine de ma femme, elle dit, tu es enceinte. Voilà. Ouais. Donc elle m'a dit oui, effectivement, c'est ça. Et donc là, bah, c'était quand même un choc. Donc on apprend ça d'un seul coup, ça nous tombe dessus.
Mm-hmm. La première réaction, quelle est-elle? Est-ce qu'on a peur pour son enfant? Est-ce que c'est le premier sentiment qui vient?
Non, on n'a pas eu forcément une réaction de peur. Ouais. C'est vraiment un effet de surprise maximum. Plutôt, moi, je dirais plutôt surprise que peur.
D'accord, c'est déjà mieux, ouais. en tout cas, hein, parce ouais. que on peut se dire, on peut se mettre à votre place, hein. En tout cas, tous oui. ceux qui sont papa et maman, c'est difficile à entendre. 15 ans,
oui,
15
oui,
ans,
sûr, oui,
c'est tout jeune encore. Hein.
Oui, oui, tout à fait. Non, mais vraiment, moi, je préfère dire le mot surprise.
Oui.
Dans le sens où la peur, je trouve ça. Surtout qu'en plus, quand ça nous tombe dessus comme ça, en fait, on n'a pas trop le temps non plus de réfléchir. Enfin, je ne sais pas comment vous dire ça. Ce n'est pas une réflexion purement intellectuelle. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui, c'est instinctif. Il y a quelque chose qui vous envahit, qui est de l'ordre de la chair.
Voilà.
Hein
voilà. On sent une émotion. Oui. Ça procure une émotion immédiate.
Oui.
Et vraiment, l'émotion qui est sortie, c'est la surprise. Après, mm-hmm. on a pu se poser des questions... quelques minutes après, mm-hmm. mais sur le coup, on va dire, c'est ça, c'est une grosse surprise, quelque chose qui vous tombe du ciel comme ça d'un seul coup.
Alors, une fois cette surprise passée, Denis, ce qui est quand même assez déroutant et en même temps très intelligent de votre part, c'est que vous avez pris une décision, je dis intelligente parce que c'était celle de faire en sorte que cet événement devienne un événement heureux. Racontez-moi le cheminement qui vous a amené à prendre cette décision. Et en tout cas, oui. vous y tenir.
Oui, oui. En fait, on va dire dans les minutes qui ont suivi, parce que je crois que ma fille, en fait, nous avait dit un peu à contre-cœur, bon, je suis enceinte, mais si vous voulez, je peux avorter.
Oui.
Voilà. Bon. On ne savait pas hein, qu'elle était enceinte de 6 mois.
Oui. Oui, mais c'est donc...
Donc moi, j'ai eu...
Oui. Vous ne
donc,
saviez
j'ai
pas
eu une première... Non, on ne savait pas. Et puis elle non plus, elle ne savait pas du tout depuis combien de temps elle est enceinte.
Ouais.
Et donc, j'ai eu une première action, on va dire, au tac. Hein. Je lui ai dit non, j'en ai pas question.
Mm-hmm.
Voilà. Alors, c'est pas la question de savoir si je suis pour ou contre l'avortement. Mais j'ai eu cette première action-là, qui s'est vérifiée par la suite. Je ne pouvais pas se mettre enceinte de 6 mois. Et donc, on devait prendre les choses en main pour que cet accouchement se passe bien.
Mais comme vous le dites, Denis, vous ne saviez pas que votre fille était enceinte de 6 mois. Donc, permettez-moi quand même de souligner encore votre réaction, qui est quand même une réaction très, très positive. C'est que pour vous, il est hors de question qu'elle avorte. Donc, y a quelque chose, il y a une volonté de vie en vous. Hein, il y avait déjà ce petit-fils hein, qui se profilait.
Oui, si vous voulez, en plus, comment dire, bon, on finit par bien connaître ses enfants.
Ouais.
Et l'émotion qu'elle m'a transmise en disant je peux avorter,
ouais.
j'ai eu l'impression que ça lui faisait vraiment
mal,
de douloureux.
Mais ouais.
Et donc ma réaction a été de dire tout de suite, quand j'ai senti cette douleur, en gros je lui disais non, pour moi, si tu veux, tu peux être heureux, même en étant enceinte à 15 ans, on sera là pour t'aider.
Est-ce que ça n'est pas là d'ailleurs que commence dans cette acceptation et justement dans le fait de tout de suite la rassurer, hein, puisque vous évoquez ce sentiment de peur et de douleur, surtout en vous annonçant « mais si tu veux, papa, je peux arrêter cette grossesse ». C'est là que vous avez commencé à le transformer en événement heureux.
Oui, tout à fait. Mm-hmm. En fait, je pense qu'on a... Alors, je ne sais pas si ça peut paraître bizarre ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, on s'est retrouvés... Ça n'a pas duré longtemps, bon, au bout de 5 minutes, c'est-à-dire, ma femme et moi, on s'est dit, en fait, on va tout faire pour que l'événement soit heureux pour toi et puis ta future famille.
Et
ton...
Et voilà,
choix qu'on a fait tout de suite.
Une dernière question, Denis. D'abord, en fait, il y a quelque chose que je voudrais que vous me précisiez, c'est que le père était toujours avec votre fille, parce que c'est important.
Ah non.
Non.
Vous parlez de maintenant ou...
Non, à l'époque, au moment où elle est enceinte, ah oui. Est-ce qu'elle est accompagnée? Est-ce qu'il y a de l'amour?
Non.
D'accord, ok. Non, mais c'est un détail important. Alors, justement, parce que par rapport à la question que je vais vous poser maintenant, ce détail est important. Que diriez-vous aux parents qui vivent la même situation que la vôtre? C'est-à-dire, voilà, une adolescente de 15 ans, voilà, avec un papa qui soit n'assume pas cette grossesse, soit voilà, on ne sait pas lequel, voilà, dans son entourage, elle n'arrive pas à voir qui est le papa. Quel conseil vous donneriez aux parents qui vont ou qui affrontent la même situation que vous?
Alors, je trouve que c'est un conseil qui est pas facile.
Non.
Pas facile à donner.
En même temps, vous avez donné beaucoup de conseils, hein, à travers votre témoignage.
Je dirais que c'est quand même un moment vraiment très spécial, c'est sûr, qui va engager, qui engage à vie, quelque part,
ouais.
Puisque un enfant, c'est à vie. Hein. Donc, la décision que peuvent prendre les parents à l'instant X, c'est j'essaie de rendre l'événement heureux, ou alors ça va être un poids, mais un poids qui risque de durer très longtemps. Et du coup, je vais empêcher ma fille et puis son enfant d'être heureux. Vous voyez, c'est un peu un système de relations.
Mmh. En tout cas, ce que vous conseillez aux parents à travers ce que vous dites, c'est tout de suite d'essayer d'accompagner son enfant. Et puis, encore une fois, j'en reviens à cette pulsion de vie que vous avez eue, cet instinct. Vous parliez de votre chair, hein, de ce qui s'est passé dans votre chair au moment où votre fille vous annonce là. On a du mal à mettre des mots, vous avez du mal à mettre des mots sur ça, mais on entend combien, à ce moment-là, c'est le père, là, c'est votre chair en même temps et celle de votre enfant qui était en péril quelque part, si des mauvaises décisions pouvaient intervenir à ce moment-là. Et vous avez pris les bonnes décisions, puisque votre petit-fils a aujourd'hui 15 ans, et que je suppose que vous êtes un grand-père heureux aujourd'hui, mon cher Denis.
Absolument. Et puis, je dirais, donc, comme j'ai été un grand-père jeune, en même temps, j'ai pu, oui, ça a des avantages aussi, j'ai pu profiter de encore d'être dans la force d'un jeune grand-père.
Et l'accompagnement d'un adolescent, hein, aujourd'hui. Donc bravo Denis, bravo et merci mille fois pour votre témoignage si lumineux cet après-midi sur l'antenne de Rampin. Dans un instant, nous allons accueillir Alizée. Elle est devenue mère à l'âge de 18 ans alors qu'elle avait coupé les ponts. On va le voir avec ses parents.
Europe 1. Vous vous reconnaissez dans le témoignage de Denis. Vous nous appelez, on a envie de vous entendre, vous aussi, au 39-21, 50 centimes la minute. Parents ados, grossesse précoce, c'est votre histoire. On vous écoute au standard d'Europe 1. Les grossesses précoces, comment avez-vous réagi quand vous avez appris que votre ado attendait un enfant? Vous avez 15 ou 17 ans et vous êtes déjà parent. Vous racontez votre histoire, Olivier Delacroix, au 39-21.
Et nous accueillons maintenant Alizée sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Alizée.
Bonjour.
Bonjour, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous Alizée?
Alors j'ai 29 ans et je vis à Bordeaux.
D'accord. Alors, Alizée, à l'âge de 17 ans, vous êtes tombée enceinte alors que vous étiez en situation de rupture familiale. Vous viviez dans un foyer. Vous avez fait un déni de grossesse et vous êtes aperçue que vous étiez enceinte au bout de 6 mois. Comment est-ce que, à la naissance de votre fille, vous avez fait? Est-ce que vous avez pris conscience tout de suite de vos nouvelles responsabilités? Parce que qui dit rupture familiale, qui dit vie en foyer, Nicolas Dutrio l'évoquait tout à l'heure, il y a certaines situations qui rendent plus délicate, plus difficile la situation d'être jeune mère. Comment ça s'est passé pour vous?
Alors, moi, sur le moment, on va dire que je l'ai vécu un peu comme si mon corps me trahissait, en fait. C'était, on m'obligeait à dévoiler ce secret, et j'avais l'impression que mon corps et mon esprit, à ce moment-là,
n'étaient pas en mesure, en fait. Ouais.
Voilà, c'est ça. Donc, c'était une surprise pour moi, c'était beaucoup de bouleversements et donc ça a été très fort en émotion à ce moment-là, ouais.
Oui, je me doute. Et est-ce que le papa était présent? Est-ce que c'était une grossesse assumée pour lui ou pas du tout?
Non, pas du tout. Non, j'étais toute seule à ce moment-là. Oui, mmh. Oui.
Est-ce que vous avez eu cette impression aussi, lorsque je vous entends parler de sacrifier votre corps, vous sacrifiez votre jeunesse aussi, une partie de votre jeunesse. Est-ce que ce sentiment-là accompagnait aussi l'autre ?
Alors, sur le moment, j'avais pas du tout cette impression. En fait, j'avais conscience que des choses allaient être bouleversées pour moi. Mais je pensais que ma fille pouvait être mon acolyte de galère à ce moment-là, parce que j'avais vraiment une vie assez compliquée,
oui.
Et qu'elle m'accompagnerait dans cette vie que j'avais pas forcément consciemment choisie, mais en tout cas que ça allait être simple si moi j'avais décidé que ça le ferait, en fait.
Oui, mais vous aviez décidé que ça le ferait, sauf qu'à la naissance de votre fille, visiblement vous n'avez pas du tout tout de suite, en tout cas, pris conscience de vos nouvelles responsabilités. Vous dites que votre âge vous servait d'excuse. Expliquez-moi ça.
Oui. En fait, je pense que l'affolement général autour de cette annonce me plongeait encore plus dans le sentiment d'être une mauvaise personne, irresponsable, et ne faisait qu'accroître, en fait, cette partie de moi qui me disait que je suis incapable d'élever et d'aimer mon enfant. Alors j'ai pris le parti de la régression.
C'est-à-dire ?
Et de me comporter comme l'ado qui s'attendait tous à avoir en face d'eux. En fait, l'idée qu'ils avaient de moi était déjà faite, donc j'étais une adolescente, j'étais une gamine irresponsable, tout ça, donc j'étais persuadée de ne pas avoir la force de changer ça, donc j'ai décidé de me trouver des excuses, dans le sens où si je faisais mal les choses, ben, c'est parce que j'étais jeune, puisque
ouais.
C'est ce qu'on me répétait sans cesse,
ouais.
Donc ça me servait d'excuse, mon âge, oui, beaucoup.
Ouais, et ça rejoint ce que disait Nicolas Dutrieu tout à l'heure. C'est que pas mal d'adultes sont prêts à décider à votre place. Donc, je vois dans ce jugement des autres, de cet ado qui n'est pas encore responsable. C'était tous les adultes qui vous entouraient ou vous avez reçu quelques aides quand même à l'époque ?
Alors, il faut savoir que... Oui, alors j'étais en rupture familiale totale. J'avais une de mes sœurs qui essayait de me soutenir tant bien que mal, mais bon... d'une certaine façon, c'était un petit peu bancal, tout ça. Donc, on va dire qu'il y avait quand même beaucoup de personnes qui jugeaient énormément ma situation. Les personnes les plus bienveillantes, finalement, il y en avait très, très peu. Il n'y en avait pas assez.
Le déclic, en tout cas, Alizé, il est venu lorsque les services sociaux ont menacé de vous enlever votre fille. Là, à partir de ce moment-là, vous avez totalement réagi. Comment vous êtes organisé à partir de là ?
Alors, à ce moment-là, en effet, quand j'ai compris que les services sociaux étaient susceptibles de me retirer mon enfant, j'ai réalisé instantanément la valeur de ma fille, en fait. J'ai appris que je pouvais avoir peur pour quelqu'un d'autre que pour moi. Et du coup, par désespoir, on va dire, j'ai appelé ma maman, avec qui je n'étais plus en contact depuis plus de 2 ans. Et parce que c'était la seule chance que je pouvais nous offrir à ma fille et moi de nous permettre de vivre une vie meilleure. Mais il n'y a qu'à ce moment-là où j'ai compris l'urgence de la situation et de mon comportement, en fait.
Et votre maman a assuré à ce moment-là ?
Elle a assuré à ce moment-là. C'est la seule qui a pu me sortir de cette situation ultra engouffrante, en fait.
D'où l'importance de la relation toujours avec les parents. Et c'est surtout aux parents que je m'adresse, là. Ne jamais rompre avec ses enfants, malgré tout. Parce que c'est vrai que l'adolescence n'est pas l'âge le plus facile. Vous seriez ombline, mais vous verrez. Vous verrez, ça viendra bientôt. Même si votre fils est encore... un petit, mais c'est vrai que c'est l'âge où ils commencent à nous expliquer la vie, les enfants. Donc, ils savent tout sur tout. Est-ce que aujourd'hui, votre fille a 11 ans, Alizé, ça va, tout roule ?
Oui, c'est une petite fille épanouie, sereine. Non, elle est formidable, vraiment. Elle s'est relevée de tout ça avec plus de force que moi, je pense, en plus.
Ouais.
Donc, elle est extraordinaire, vraiment.
Bon, et très bien. Vous semblez très heureuse dans cette belle ville de Bordeaux, en plus, que je connais bien. Et vous avez tout pour être heureuse maintenant, Alizé.
C'est ça, tout à fait, oui.
Merci beaucoup pour votre témoignage sur l'antenne d'Europe 1. Pour conclure cette émission, nous allons accueillir Caroline dans quelques instants. Elle a eu son enfant à 16 ans, mais le papa était là déjà. Et 20 ans après, toute la petite famille est toujours réunie.
Europe 1. Des jeunes filles, des jeunes garçons qui sortent à peine de l'enfance et qui doivent endosser le rôle de parents. Vous échangez avec nous, vous nous racontez votre expérience au 39-21.
Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et pour conclure cette émission, nous accueillons Caroline. Bonjour Caroline, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1.
Bonjour, merci de prendre mon appel.
Je vous en prie. Quel âge avez-vous ? D'où nous appelez-vous, Caroline, si ça n'est pas
indiscret ? Alors, J'ai 36 ans et j'habite en région Nord-Isère, on va dire.
Nord-Isère, voilà. D'accord. Ouais. Alors, Caroline, si j'ai bien compris, vous avez été maman à 16 ans. Oui. Et là, le père de votre enfant, petite fille ou petit garçon ?
Petit garçon.
Petit garçon. Donc, votre mari, hein, en tout cas celui qui partage encore votre vie aujourd'hui, 20 ans après, était là.
C'est voilà. Ça,
c'est génial,
fait,
c'est génial.
Fait,
bon, ça, parce que vous avez entendu les autres témoignages. Il est vrai que voilà, entre Manon, Marie-Christine et puis Alizée, on a souvent une défection hein, du père. Donc, par contre, je voudrais revenir à cette époque. Comment ça s'est passé au moment où vous annoncez aux vôtres et à vos parents que vous êtes enceinte et que vous allez garder cet enfant?
Alors, ça a été tendu. Ça a été tendu. Nous, on était tous les deux, on était en fin de seconde. Hein, on était au lycée, donc on était tout jeunes. C'était mon premier amour. J'étais son premier amour aussi de l'autre côté. Et en fait, j'ai découvert que j'étais enceinte. J'étais enceinte de 3 mois. Voilà, parce que j'avais 16 ans. Donc, c'était, voilà, les cycles n'étaient pas forcément très réguliers. Et puis, à un moment, on se pose quand même des questions. Et puis, en fait, c'est lui qui s'est rendu compte que j'étais enceinte.
Oui.
Un jour, il m'a dit, peut-être que tu devrais, je sais, faire un petit test quand même. J'ai dit, mais non, mais voilà, non. Et puis finalement, bah, il s'est avéré qu'effectivement, j'étais enceinte. Et alors là, bah, grosse peur panique. Hein.
Oui.
Moi, jeune fille, c'était très, très compliqué dans ma tête. Là, toutes les questions se sont passées. Et lui, bah, il a été très zen. Très,
oui.
Très zen.
Oui.
Donc, on en a beaucoup parlé ensemble d'abord. Et puis, ben, un jour, il a bien fallu, rapidement, il a bien fallu qu'on en parle à nos parents. Ils se connaissaient un petit peu, mais pas énormément. Et en fait, et ben, on a décidé de les prendre tous les quatre.
Oui.
Et puis de leur exposer la chose de manière assez simple, on va dire.
Oui.
Assez claire.
Ce qui était plutôt un bon choix encore. Hein. Ben, un choix réfléchi de réunir tout le monde. C'était une manière de responsabiliser tout le monde aussi.
Exactement. En fait, comme on était vraiment tous les deux responsables de cette situation, à ce moment-là, on ne savait pas vraiment si on allait les garder ou pas, mais en fait, on savait bien qu'on n'avait plus beaucoup de temps et puis, de toute manière, au final, on n'avait plus le choix. Et puis mon mari, enfin mon petit ami, était quand même, j'appelle le sage parce qu'il est très sage, il a toujours les bonnes réflexions, même à cet âge-là.
Oui.
Et donc on les a réunis tous les quatre et puis on en a discuté. Alors ça a été lourd comme discussion.
Tendu, chaud. On se doute, oui.
Voilà, et puis en fait, ils ont eu la même réaction que l'auditeur précédent, que Denis, à savoir qu'eh bien, en fait, voilà, la situation était telle que c'était pas forcément envisageable, pas pour des questions de religion quoi que ce soit, mais c'était pas forcément envisageable pour eux de faire un avortement. Mais si on décidait d'eux, eh bien, ils nous soutiendraient quand même.
Dans le, pardonnez-moi de vous interrompre, mais dans le témoignage de Denis tout à l'heure, on sentait cette pulsion de vie. Il parlait de lui, père, qui sent ce qui se passe dans la chair de son enfant et qui, finalement, qui devine hein, l'envie de garder cet enfant, d'aller au bout de cette aventure. Est-ce que vous avez senti vos parents comme ça? Parce que on sait que vous avez été accompagné par ses parents, mais qu'en même temps, on vous prédisait que vous alliez exploser d'un moment à l'autre. Donc,
Oui, à 16 ans, on nous appelait le baby-couple. C'était de toute façon, oui. En fait, personne ne se doutait que, et encore cet été, j'en ai parlé avec une tante éloignée qui nous a dit, mais on n'imaginait pas que vous seriez encore ensemble aujourd'hui. C'était pas possible. À 16 ans, on ne fait pas sa vie, quoi. À 16 ans, on s'amuse. À 16 ans, les couples, oui, on tombe amoureux, mais on ne fait pas notre vie à 16 ans.
Et pourtant, vous avez prouvé que si.
Et pourtant, alors la seule condition de nos parents, des miens et puis des siens aussi, c'était qu'on continue nos études.
Ouais.
Et
ce qui était plutôt bien, non? Ce qui était plutôt bien.
Ben, complètement, c'était indispensable et il fallait réussir absolument.
Mm-hmm.
Et donc, on a passé notre bac. Moi, j'ai eu mon bac avec mention. On est rentrés tous les deux en classe préparatoire.
Ouais.
Donc, avec 2 ans difficiles. 2 ans, il a fallu combiner et ce petit bout et notre vie de famille, etc. Et puis après, moi, j'ai fait une école de commerce. Lui, il a fait une école d'ingénieur.
Ouais.
Et puis voilà.
Et puis voilà. Et puis, on se retrouve 20 ans après. Vous avez d'autres enfants depuis ?
Oui, j'ai une petite fille. On a une fille qui a 6 ans aujourd'hui.
6 ans.
Oui.
Donc voilà, la famille est réunie. Voilà. Si je compte bien, votre grand a presque, bah, presque 20 ans.
Voilà. Il a 20 ans, il rentre en école d'ingé.
Et ben voilà. Et donc, vous êtes la preuve vivante qu'il ne faut pas s'affoler, qu'il faut réfléchir, que du haut de nos 15 ans ou 16 ans, on peut réfléchir et puis proposer en fait à ses parents de se réunir, de parler calmement. Et puis, d'être accompagné comme il se doit, puisque c'est le rôle des parents d'accompagner leurs enfants. Mille merci, Caroline. Un baiser à votre grande 20 ans, à la petite de 6 ans et puis au papa, bien évidemment. Merci aussi à Manon, à Marie-Christine, à Denis, à Alizé de nous avoir rappelé et raconté leurs histoires. Merci à Nicolas Dutrio pour ses précisions et ses éclairages. Alors donner naissance à un enfant est un bouleversement, on l'aura compris, c'est encore plus le cas lorsque l'on devient parent très jeune, sans avoir eu le temps de devenir adulte. On l'a entendu, la présence de l'entourage est très importante, mais pour qu'un lien se tisse, les grands-parents notamment ne doivent pas se substituer aux parents, même si ces parents sont jeunes. Si vous êtes encore adolescent et que vous vous apprêtez à devenir parent, des professionnels de santé sont là pour vous écouter, vous accompagner, vous rassurer et vous donner les bons réflexes. En tout cas, il y a du monde qui vous attend et qui pourra vous parler. Vous pouvez aussi continuer à en parler sur les réseaux sociaux.
Oui, sur le groupe de l'émission, sur la page Facebook d'Europe 1, Instagram, Olivier Delacroix officiel, Twitter aussi avec le hashtag Europe 1, comme ça on est complet.
Europe Mais oui, 1. Inscrivez-vous au Olivier Delacroix officiel et nous pourrons continuer à parler durant tout l'été. Demain, nous parlerons ensemble de la détox et de ses vertus. Si vous faites régulièrement des cures de détox, si vous cherchez à éliminer des toxines grâce à une méthode particulière, eh bien ça nous intéresse, appelez-nous au 3921 pour nous parler de votre histoire. J'étais ravi de passer 7 heures avec vous, 15 heures presque 56, dans 15 secondes, le temps d'un flash d'infos et puis vous retrouverez Karima Charmi qui est déjà à mes côtés. Ça swing déjà. Quel est le programme aujourd'hui, Karima?
Pas de détox. Bonjour Olivier, bonjour Omblin. Pas de détox musical cet après-midi de 16h à 18h en direct sur Europe 1 pour musique. On va parler musique, on va parler avec les auditeurs. Et comme je suis très connectée sur les réseaux sociaux que j'aime beaucoup, j'ai lu les messages des auditeurs et tout le monde m'a posé une question. Karima, y aura-t-il un hommage à Johnny Clegg dans musique? Eh bien oui, nous ouvrirons l'émission avec un hommage au Zoulou Blanc, comme il était appelé.
D'accord. Eh bien écoutez, on attend que ça, Karima. À 18h, quant à moi...
À 16h, jusqu'à 18h.
C'est dingue que je
vous voulez vraiment que je reste jusqu'à...
Vous nous accompagnez jusqu'à 18h.
Je vous accompagne jusqu'à 18h.
Très bien. Et je vous dis à demain, Olivier. 15h pour le Danse 226e rendez-vous. À demain. Au revoir.